Rebonjour à tous et à toutes. Je ne me lasse pas de dire bonjour parce que c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vous vois loin aujourd'hui ? Il y a un côté droit de l'hémicycle qui est un peu lointain aujourd'hui. C'est bizarre. Le côté gauche, ils sont mieux. Ils sont mieux. C'est bien. Mais bon, s'il y a des courageux qui veulent s'avancer, c'est bien parce qu'on pourra discuter ensemble et tout, ça serait mieux. Mais bon, je ne vous force pas. C'est pas. Si vous préférez rester au fond de la salle, il n'y a pas de souci. On va s'en sortir. Alors, ce matin, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, quelques années, on va dire, à la fin du culte, ils vont me dire « Tu t'es répété là, parce que là, tu l'as déjà fait celui-là. » C'est vrai. C'est un message, c'est même plusieurs messages que j'ai déjà donnés dans l'Église, mais le Seigneur m'a mis à cœur de recommencer cette série parce qu'on a toujours besoin d'entendre ce genre de choses. C'est toujours bien de savoir que l'Éternel est notre berger. Et c'est tellement bon de savoir qu'il s'occupe de nous. Donc vous voyez, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ça va être sur le psaume 23 aujourd'hui. Et on va débuter et on va se cantonner même, je dirais même, à un seul verset, le verset numéro 1. Il y en a plusieurs autres, mais c'est celui qui va m'intéresser aujourd'hui. Et ce matin, on va se pencher sur ce psaume, sans doute, je pense, le plus connu de l'Ancien Testament et du livre des psaumes. Même peut-être parmi vous, certains le connaissent par cœur. Je ne vais pas vous le faire réciter, on n'est pas à l'école, d'accord ? Mais dans ce psaume, c'est David qui parle et qui exalte la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. Quoi de plus normal pour David que d'utiliser d'ailleurs un langage pastoral pour bénir son Dieu ? En effet, nous savons, de par son père Isaïe, que David est berger. On le voit dans 1 Samuel 16:11, quand Samuel, justement, est en train de chercher le roi d'Israël, le futur roi d'Israël, pour l'oindre, et il demande à Isaïe de lui présenter tous ses fils. Les uns et les autres passent, et l'Éternel lui dit « Non, celui-là, je ne l'ai pas choisi, celui-là, je ne l'ai pas choisi, et puis, il n'y en a plus. » Puis Samuel se demande « Oui, mais si tu n'en as choisi aucun, pourquoi tu m'as envoyé vers cette famille pour oindre un de ses fils pour roi ?» Et puis c'est pour ça qu'il demande à Isaïe, Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Ah, il en reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » On est bien devant un David, berger. D'accord ? Donc il connaît son métier, je suppose. Ce texte n'est pas un texte angélique en dehors du temps et de la vie réelle. Alors il faut descendre un petit peu sur terre, et on verra en effet par la suite dans nos études que David, effectivement, loue son Dieu pour sa protection et ses bienfaits, mais il n'oublie pas non plus les moments difficiles par lesquels il a pu passer et auxquels il fait allusion dans son récit d'ailleurs. On le verra par la suite, peut-être pas aujourd'hui, mais soyez patients et revenez plus tard, quelques dimanches, et vous aurez la suite. Ce matin donc, nous allons découvrir la face cachée de la vie de la brebis. Ses aspirations les plus profondes, ses besoins. Ça vous parle ? Et je vois que vous êtes très intéressés par la vie passionnante de cet animal, d'ailleurs très sympathique, c'est vrai. Bon, ça ne vous suffit pas. D'accord. Bon, on va la refaire alors. Alors ce matin, nous allons découvrir, par le moyen de l'analogie entre l'homme et la brebis, qu'utilise David d'ailleurs, combien nous avons besoin de notre repos physique et spirituel, des soins constants et attentionnés de notre divin berger. C'est mieux ? Ça vous parle plus là ? Oui, c'est une application quand même un peu plus personnelle. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, parce que tu es le divin berger, Seigneur, et nous sommes ton troupeau, le troupeau de ton pâturage, un petit troupeau, Seigneur, mais dont tu prends soin, que tu aimes, Seigneur, et que tu veux mener, Seigneur, vers les pâturages, les verts pâturages de la vie éternelle, Seigneur. Aussi, nous nous mettons à tes pieds, nous voulons écouter, apprendre de toi, Seigneur, comme un élève au pied de son maître, Seigneur, qui entend les paroles et les enseignements. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous lampe à nos pieds, Seigneur, une boussole sur notre chantier, sur notre sentier, Seigneur, qui nous dirige dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Merci pour cette matinée que nous pouvons passer devant toi, sous ton regard, Seigneur. Amen. Alors, pour ce faire, soyons honnêtes, hein, j'ai utilisé un bouquin. D'accord ? Je me suis appuyé sur un bouquin, peut-être que vous avez déjà lu, donc je veux le citer. Le psaume, un berger médite, le psaume 23, hein, qui a été écrit par Philippe Keller, un très beau livre que je vous conseille de lire. Évidemment, personnaliser un petit peu l'affaire, bien entendu, mais je me suis servi beaucoup, et surtout de l'expertise de ce monsieur Keller dans le domaine pastoral, parce que moi, les brebis, j'y connais rien, mais du tout. Alors j'ai appris beaucoup de choses, j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble, et que vous allez voir que les brebis, vraiment, elles nous ressemblent. Aïe, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, lui, il en connaît un rayon, et donc, de par son expérience de berger, il va traduire le psaume 23, en quelque sorte, dans une optique berger et brebis. Et c'est très intéressant, donc propre à nous faire comprendre la relation qui existe entre le berger et sa brebis ou ses brebis, et les enseignements que nous pouvons bien entendu en tirer de cette analogie évidente utilisée dans le psaume 23. Donc vous êtes prêts à entreprendre ce voyage dans le monde du berger de son troupeau ? Oui ? On y va ? On se met en marche alors. On a tous en tête des images bucoliques, représentant le berger avec sa houlette et son bâton, hein, veillant sur son troupeau. C'est beau, c'est tranquillisant, c'est vrai. Et tout au long de nos études, nous allons découvrir ensemble que cette image, quoique très belle, n'est pas du tout en rapport avec la réalité de la vie pastorale. La réalité de la vie pastorale, c'est que c'est un métier très dur. Ça ne transparaît pas forcément dans les icônes qu'on voit dans les... Non. Ou dans les petites cartes de Noël aussi. C'est très joli, mais le berger, il en bave, je vous le dis. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Hein, donc, ouvrons donc nos Bibles et on va lire le psaume en entier pour se mettre en situation, comme on dit. Hein, comme ça, on va pouvoir avoir une idée précise de tout ce que nous dit le Seigneur dans ce psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh ! C'est normal, c'est le plus beau. Hein. C'est le plus beau psaume de l'Ancien Testament, je pense. Donc aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, nous allons nous pencher sur le verset numéro 1, « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Alors, les relations entre Dieu et l'homme sont dans les Écritures souvent comparées à celles d'un père envers ses enfants, ou d'un époux envers son épouse, ou celles d'un berger envers ses brebis également. Et c'est là, c'est le cas. Dieu est comparé, évidemment, aux bergers et les hommes aux brebis. D'accord. L'analogie de Dieu avec le berger est tout à fait évidente, car il prend soin de ses brebis, il les protège, il les ramène dans la bergerie quand elles s'égarent, etc., etc. Donc, l'analogie de l'homme avec la brebis n'en est pas moins évidente. Bien sûr, elle est moins flatteuse pour nous que pour Dieu. D'accord, mais bon, ça... En effet, les brebis ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Comme certains pourraient le supposer, elles ne se lavent pas, elles ne font rien. Non, elles mangent. Elles mangent, et elles mangent, sans arrêt. D'accord ? Elles demandent plus que tout autre type de bétail une attention sans fin et des soins méticuleux. Et je dis bien méticuleux, et on va le voir tout à l'heure. Sinon, ça se passe très mal. Ce n'est pas par hasard si Dieu a choisi de nous appeler des brebis. Alors, le comportement de la brebis et celui de l'homme est semblable sur beaucoup de points. Peut-être pas tous, on ne va pas aller non plus se flageller, mais quand même, on ressemble à des brebis. L'homme a un esprit grégaire comme la brebis. Si, si, on aime bien être en société. C'est pas mauvais en soi, hein, c'est très bien. L'homme est craintif, il a toujours peur de quelque chose. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, ou demain, ou dans 10 jours, ou dans 3 ans ? Il est timide aussi, certaines fois, beaucoup. Il est très obstiné. C'est nous, ça. Je parle de nous. Hein. Pas que de vous. Hein. Il est stupide. Ouais, c'est comme ça. Alors, malgré ces caractéristiques assez négatives, pour certaines, en tout cas, Christ nous choisit. Il nous achète. Il nous appelle par notre nom. Il devient notre propriétaire. Et prend plaisir à s'occuper de nous, pourvu, évidemment, que nous acceptions l'autorité de sa houlette et de son bâton. Les brebis, comme nous l'avons mentionné plus haut, sont des animaux extrêmement craintifs. Et vers le soir, ces brebis-là, elles ne se coucheront pour prendre du repos que si 4 conditions sont réunies. Et on en vient un petit peu au cœur de notre message, ces 4 conditions. Pour avoir le repos. Évidemment, on va extrapoler et l'appliquer à nos petites vies. D'accord ? Alors, les brebis, on parle là du côté pastoral, n'est-ce pas ? Elles ne se coucheront que si elles sont libérées de toute crainte. Si elles ont peur, elles sont debout, elles tournent en rond et elles ne veulent pas dormir. Elles ne se coucheront que si elles n'ont pas de différend avec ses congénères ou avec leurs congénères. C'est-à-dire, dans le troupeau, évidemment, il y a plusieurs brebis. Et puis, il y a des brebis plus ou moins dominantes qui essayent d'imposer leur mauvais caractère et surtout de se faire une belle place sur le pâturage le plus vert. D'accord ? Donc, s'il y a des conflits, là aussi, elle restera debout, la brebis, et elle ne voudra pas dormir. Les brebis ne se coucheront pas non plus si elles ne sont pas débarrassées des parasites et des insectes qui tournent autour d'elles. Et le dernier point, évidemment, celui qui nous ressemble le plus, elles ne se coucheront pas si elles sont pas rassasiées. Vous couchez le ventre vide, vous ? Ben elles non plus. C'est pour ça qu'elles nous ressemblent. Hein. Bon. Alors, on va reprendre un petit peu ces 4 points et on va les appliquer, évidemment, à nos vies. Donc, le premier point, ben, c'est la sécurité, en quelque sorte. Quand la nuit tombe sur le troupeau, donc, et là, on se place du côté du berger, qui est dans la campagne, hein. Bon, en général, les brebis et les bergers, bon, ce berger-là, entre parenthèses, était dans des pays genre Australie, etc. Donc, il y avait des bêtes pas très sympathiques qui tournaient autour des troupeaux. Donc, peut-être qu'en France, il y en a moins, mais il y a aussi moins de brebis, hein, faut le dire. D'accord ? Donc, dans ces pays-là, les troupeaux sont très grands. Et donc, quand la nuit tombe sur le troupeau, les coyotes, il n'y en a pas en France, hein, mais dans ces pays-là, il y en a, les ours, les chiens et les prédateurs de toute espèce commencent à rôder autour des brebis, parce qu'elles sont un peu appétissantes. Comprenez qu'eux aussi, dans la chaîne alimentaire, il leur faut manger. Donc, forcément, tous ces coyotes, ours, chiens et prédateurs de toute espèce voudraient bien faire un petit festin. Et souvent, le berger est obligé de veiller toute la nuit pour éloigner ces dangers potentiels. Toute la nuit. On commence à comprendre que le travail de berger n'est pas si bucolique que ça. On veille toute la nuit avec un fusil, autant que possible, pour éloigner ces prédateurs. Jésus est le bon berger, et c'est lui qui prend soin d'éloigner les dangers qui nous entourent sans cesse. Il ne faut pas se faire d'illusions. On peut avoir un bon travail, on peut avoir une belle famille, croire que rien ne peut nous arriver, qu'aucun danger ne peut nous assaillir, c'est faux. Quelle que soit notre situation, les dangers sont là. Et Satan rôde, n'est-ce pas? Et puis c'est Jésus qui nous entoure sans cesse. Il veille jour et nuit, attentif aux moindres attaques qui pourraient surgir de la nuit. On peut lire ça dans Jean 10, au verset 13, s'il vous plaît. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur est là pour veiller sur nous. Alors, et seulement à ce moment, nous pouvons être rassurés si nous sommes auprès du Seigneur. Et pour cela, évidemment, nous devons vivre une vie chrétienne profonde. Parce que croire à certaines doctrines et avoir foi dans les Écritures ne suffit pas. La sécurité se trouve dans une relation intime et merveilleuse avec Jésus lui-même, par le Saint-Esprit. Et on peut, évidemment, avoir une relation intime avec notre Sauveur, parce que lui le désire ardemment, par la prière, par la méditation, par l'étude de la parole. On peut se rapprocher du Seigneur et être de plus en plus en osmose avec lui. Alors vous allez me dire, « Ah mais oui, mais moi, je suis en relation intime avec le Sauveur, mais il m'arrive plein de bêtises. J'ai plein de problèmes. » Alors est-ce que la sécurité du Seigneur élude les épreuves? Oui. Quand vous êtes un chrétien affermi, quand vous êtes un chrétien proche du Seigneur, vous n'avez plus d'épreuves. C'est ça? Non? Oui? Et non. Jésus n'a jamais dit qu'il nous enlèverait nos épreuves. Par contre, il a dit qu'il nous aiderait à les surmonter, quelles qu'elles soient. Alors vous allez me dire aussi, bah oui, mais cette épreuve que j'ai, bah c'est moi qui l'ai un peu suscité quelque part. C'est prévu. On peut revenir auprès du Seigneur, confesser notre péché, et le Seigneur nous relève, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que cette relation intime que nous avons avec notre Sauveur, elle est plus précieuse que l'or pur. Et c'est elle qui nous place dans la bonne position devant notre Sauveur, pour qu'il puisse nous utiliser et pour qu'il puisse nous faire du bien. Plus nous sommes proches de lui, et plus nous vivons de lui. Et c'est ce que nous voulons, j'espère, en tout cas. Ce matin, c'est être proche de Dieu, proche de Jésus, pour qu'il puisse vraiment nous protéger et nous utiliser. Le second point, pour que nos brebis puissent se coucher tranquilles, c'est pas de conflit, pas de compétition au sein du troupeau. C'est important, ça. Il y a un ordre bien établi dans le monde animal. Ça, c'est clair. Il existe aussi, au sein d'un troupeau, de moutons. Souvent, les vieilles brebis rusées s'arrogent la maîtrise du troupeau. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit, hein, Monsieur Keller. Parce qu'il a l'habitude de voir ces brebis rusées essayer de s'arroger l'herbe la plus verte. Elles choisissent les meilleurs pâturages, bien entendu, pour elles, seules, et repoussent les autres brebis de leur territoire. Waouh ! Cela entraîne la nervosité, bien entendu, la tension, le mécontentement, et par la même occasion, le manque de repos de la brebis dominatrice et des autres, parce qu'elle doit toujours être sur la défensive pour protéger son hégémonie. C'est un soldat. Et donc cette brebis dominatrice ne va pas se reposer, et les autres brebis du troupeau non plus, parce qu'elles devront toujours batailler pour tenter de supplanter cette brebis despotique et avoir accès au meilleur pâturage. N'est-ce pas ? Ces situations ne sont pas propices au repos du troupeau, et seule la venue du berger calme le troupeau en captant l'attention des moutons et en intervenant pour corriger et éloigner la brebis fauteuse de troubles. C'est clair. Est-ce qu'on peut lire Galates 5,15 ? Tiens, ça me paraît intéressant. Galates 5,15 nous dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » C'est grave. Combien le tableau ressemble aux situations souvent conflictuelles dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous côtoyons chaque jour la recherche du pouvoir, le détournement des richesses au produit de quelques personnes seulement, des conflits permanents entre individus, groupes, peuples, des rivalités sont la norme dans le monde où nous vivons. Ça, c'est la norme du monde. Alors pourtant, au sein de nos églises, on pourrait s'attendre à trouver un havre de paix, de la joie, dans la communion avec Dieu. J'espère que c'est le cas. Mais hélas, ce n'est pas toujours le cas. Et ce que l'on dénote dans le monde, ben ça peut se reproduire certaines fois dans nos églises également, hélas. Recherche d'un vain pouvoir, comme dit au trèfle dans la Bible, d'une notoriété spirituelle engendrant un orgueil spirituel également, ça peut arriver. Certaines fois même, humilier les faibles pour pouvoir se montrer plus fort par rapport à eux. C'est dramatique, ces choses. Nous avons vu que dans le troupeau de moutons, l'apparition du berger met fin à toutes ces difficultés, à tous ces différends. Et dans l'Église, c'est pareil. La présence réelle dans la vie du croyant et dans l'Église de Jésus-Christ met fin à toutes ces tensions. Mais hélas, combien la présence de Christ est entravée par nos propres chairs. Pourtant, dans la présence de Christ, tout le monde est identique. Et tout notre faux orgueil, nos rivalités et nos prétentions disparaissent. Seul le cœur humble et doux, marchant paisiblement avec son Seigneur, connaît le repos céleste accordé à ceux qui sont soumis à leur Sauveur. Alors, dans nos églises, moi je vous le dis, le mieux, c'est de se soumettre à Jésus-Christ. Parce que si on se soumet à Jésus-Christ, on va se soumettre aux autres. Et tout va très bien se passer. Parce que c'est dans l'humilité qu'on trouve la sainteté. Et pas autre part. Ce n'est pas une accusation, hein. Ça passe très bien dans notre Église. Mais il faut veiller au troupeau pour que justement ce genre de choses ne se produisent pas. Le troisième point, sans lesquels nos belles brebis ne pourront pas se reposer, elles doivent être libérées des parasites et des insectes. C'est évident. La brebis est particulièrement craintive, donc, et peureuse. Et lorsqu'elle est assaillie par des mouches ou par des tiques ou autres bestioles peu ragoûtantes, hein, elle est affaiblie, affolée, parfois jusqu'à l'hystérie. Vous n'avez pas vu une brebis hystérique ? Moi non plus. J'espère que j'en verrai jamais. Elle reste continuellement debout, tapant des pattes et secouant la tête pour essayer de se débarrasser de cette vermine. Et seuls les soins attentifs, encore une fois, du berger décèlera la présence d'insectes et les empêcheront de tourner autour de l'animal. Il utilise plusieurs méthodes pour cela, pour s'en débarrasser. La surveillance, évidemment, du matin jusqu'au soir, là encore une présence jour après jour. Des produits chimiques aussi, de temps en temps, quand même. Oui, c'est pas très écologique, mais c'est très efficace. Donc, on peut le comprendre. La vérification de la présence de buissons. Quand j'ai lu ça, ça m'a étonné. J'ai dit, un buisson, pourquoi faire ? Mais parce que les brebis aiment bien se frotter aux buissons. Et donc, ça les gratte, ça leur fait du bien, ça fait sauter les tiques. Et donc, c'est très utile. D'après lui, hein. Moi, j'ai pas de brebis chez moi. Mais je trouve que c'est une belle image, n'est-ce pas ? Donc, dans la vie chrétienne, peuvent survenir de multiples petites irritations, on va dire, frustrations ou expériences désagréables. Et nous pouvons comparer ces circonstances aux insectes qui assaillent le troupeau. Pouvons-nous malgré tout accéder à la sérénité malgré tous ces désagréments ? On peut lire Philippiens 4, 6, s'il vous plaît. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. On a le produit chimique pour se débarrasser des puces et des tiques. Des prières, des actions de grâce. C'est merveilleux, ça. Par le Saint-Esprit qui nous rend sensibles à la présence de Jésus-Christ, nous pouvons expérimenter le calme, la sérénité, la force et la paix face aux frustrations inévitables. Et je dis bien inévitables, puisque nous sommes dans le monde, nous aurons des frustrations et des irritations. Il est impossible de faire autrement, parce que on se frotte les uns aux autres, même dans l'Église. Et puis, on a tous plus ou moins quelques piquants. Et ça peut blesser, certaines fois. Alors évidemment, dans l'Église, on se demande pardon et tout va pour le mieux. Mais dans le monde, ce n'est pas forcément le cas. Et pour ceux qui travaillent, dans le monde du travail, ce n'est pas toujours facile de se faire une place en premier, de se faire respecter, mais tout en ayant une bonne attitude. Et là, on se rend compte que le calme et la sérénité qui viennent du Seigneur, ça c'est un bon produit chimique, sans lequel on va devenir comme les autres, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas le but. Nous pouvons toujours nous présenter devant Dieu pour lui exposer nos problèmes, par des prières, des supplications, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et il viendra toujours à notre aide, d'une manière ou d'une autre, sachant que notre vie dans le monde se passe plus ou moins bien parce que nous sommes aussi dans la vie en test permanent pour montrer que nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous devons aimer les autres, personnes qui nous entourent. Et justement, c'est trop facile d'aimer les gens qui nous aiment. C'est bien, mais c'est facile. Et le Seigneur nous demande d'aller plus loin que cela. Il demande d'aimer les gens qui ne nous aiment pas. Là, ça devient plus compliqué. Et ces petites aspérités pourraient commencer à ressortir dans ces cas-là. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Et il veut nous soigner, nous mettre à l'épreuve pour cela. Et nous montrer que par sa grâce, on peut y arriver. Et seulement par sa grâce. Notre nature pécheresse ne nous permettra pas de faire disparaître ces aspérités. Mais le Saint-Esprit qui est en nous peut le faire à notre place. Si nous nous plaçons dans la bonne disposition de cœur, et si nous nous plaçons au bon endroit, c'est-à-dire au pied du Seigneur, pour recevoir de lui. Le quatrième point, et dernier point, les brebis doivent être rassasiées. Youpi, on va manger bientôt. La plupart des pays où l'on pratique l'élevage des moutons sont des régions sèches ou semi-arides, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, et beaucoup de races de moutons prospèrent sur de tels terrains, car le climat sec est peu propice à la maladie et aux insectes. C'est pour ça qu'il y a de très grands troupeaux en Australie, ailleurs d'ailleurs, dans des pays peut-être un petit peu plus chauds que chez nous. Pourtant, il est peu commun de trouver de verts pâturages en même temps dans de telles régions. C'est là la difficulté. Le climat convient bien à la brebis, mais le pâturage n'est pas là. C'est un peu embêtant parce que la brebis, elle aime bien brouter. D'accord. Des aménagements, des irrigations sont nécessaires donc pour faire pousser l'herbe indispensable au troupeau. Et cela nécessite donc des investissements importants. En effet, une brebis mal nourrie est toujours debout, on le dit, on n'arrête pas de le dire, une brebis qui n'est pas bien, elle est toujours debout. Bah, elle ne se couche pas. Elle cherche perpétuellement de la nourriture, elle n'est jamais rassasiée, et donc jamais en paix ni satisfaite. Elle se développe mal, manque de vigueur et de vitalité. Et donc elle ne sera que de peu d'utilité pour son propriétaire, parce que n'oublions pas, bon ça évidemment on retourne dans le domaine pastoral, c'est que les brebis, on ne les fait pas paître pour qu'elles passent une belle vie tranquille. Il arrive un moment où il leur arrive quelque chose d'assez désagréable, on va dire. Mais là s'arrête évidemment notre analogie, heureusement. D'accord ? Mais quelque part, la brebis, il faut qu'elle se développe, il faut qu'elle soit bien nourrie pour qu'elle soit utile à son maître, c'est-à-dire que le maître puisse en retirer un bon salaire. D'accord ? C'est important. Une brebis maigre, ben, elle rapportera moins qu'une brebis grasse. C'est tout simple. Dans notre vie chrétienne, Christ est notre nourriture. Vous avez tout pleinement en Christ. Dieu a réservé pour nous une vie abondante de joie, de victoire et de satisfaction si nous nous confions à lui et dépendons entièrement de lui. Mais à cause de notre perversité, de notre stupidité, vous souvenez-vous, la brebis est stupide, et nous aussi souvent, eh bien, nous préférons souvent chercher notre nourriture sur des terres dénuées d'herbe, ou aride du monde qui nous entoure. On veut toujours aller voir sur le champ d'à côté si l'herbe n'est pas plus verte, comme on dit. Parce que là où on est, même si c'est le Seigneur qui nous a donné notre pâturage, on se demande toujours si à côté, ça ne serait pas peut-être un peu plus gras, un peu plus savoureux. Et ça, c'est dangereux. Malgré les richesses que Dieu tient en réserve pour nous, nous méritons notre image de brebis stupide. Je suis désolé de le répéter, mais... Pourtant, comme le berger part à la recherche de la brebis égarée, ainsi fait aussi notre Sauveur, partant à notre recherche, avec patience, avec amour, sans jamais se lasser de nous pardonner, et se réjouissant quand nous revenons à la maison. C'est beau, hein ? Il est plein de patience, notre Sauveur. Et il en a besoin. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais on est des brebis. Donc, on est stupide. Il nous faut toujours revenir à notre Seigneur, toujours apprendre de lui, toujours recevoir par son esprit la direction à suivre, sans laquelle nous nous perdrions sans remède. D'accord ? Donc, pour amener notre analogie jusqu'au bout, vous voulez être en paix, d'être en sécurité, sans conflit, avec les troupeaux qui nous entourent, libérés du péché qui nous enveloppe si facilement. Vous voulez être rassasié réellement par une nourriture spirituelle. Ben, c'est auprès du Seigneur que vous allez le trouver, tout cela. C'est pas autre part. Et comme le troupeau est mené par le berger vers des pâturages verdoyants, ainsi le Seigneur veut nous amener également vers ces pâturages verdoyants, spirituels. Est-ce que nous voulons nous laisser amener ? Est-ce que nous désirons ce lait spirituel, comme nous dit la parole de Dieu ? Est-ce que nous savons que notre vie en dépend ? Ou est-ce que nous pensons que les pâturages d'à côté nous suffiront pour vivoter ? On peut se poser beaucoup de questions, parce que nos vies ne sont pas tirées au cordeau, hein, et souvent on a des hauts, on a des bas. Ben, je ne sais pas moi c'est comme ça que ça se passe souvent, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas toujours au meilleur de ma forme. Mais quand je suis en bas, le Seigneur, lui, est toujours là. Le berger est toujours là. Puis il va enlever les insectes nuisibles. Il va apporter un peu d'eau pour nous faire remonter. Le but du Seigneur, après nous avoir formés, c'est que nous ayons une vie plus linéaire, plus haute spirituellement. Mais ça, c'est si nous le voulons bien. Alors, est-ce que nous voulons suivre notre berger jusqu'au bout ? Je pense que oui, c'est plus ou moins difficile, et selon les personnes, selon les choses que nous vivons, ça peut être compliqué certaines fois. Mais sachons qu'il vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu que l'inverse. Et que là où est le Seigneur, ben là est la vie. Amen. Amen. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, et c'est vrai que nous sommes certaines fois, pas toujours, mais certaines fois stupides, parce que nous ne comprenons pas quel est notre besoin réel de toi, Seigneur, et que tu peux, Seigneur, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Et souvent, nous allons chercher ailleurs ce que tu peux nous donner en abondance. Seigneur, que tu puisses incliner nos cœurs à te rechercher plus, Seigneur, que tu crées en nous un cœur pur, Seigneur, que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé pour t'obéir et te suivre. Que tu sois béni, Seigneur, parce que tu es le divin berger, plein d'attention pour chacun d'entre nous. En Jésus-Christ. Amen.